Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin.
Nuit, Chris Marker. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans les nuits de France Culture, nous serons ensemble jusqu'à 7h du matin pour une nuit consacrée à Chris Marker. Depuis le 3 mai et jusqu'au 29 juillet se tient à la Cinémathèque française une exposition consacrée à Chris Marker ainsi qu'une rétrospective de ses films. C'était donc pour nous une bonne occasion de proposer une nuit Chris Marker rassemblant des archives qui nous parlent de lui et de ses films et même une émission signée par lui. Des archives dont lui-même est bien sûr absent puisque, on le sait, Chris Marker refusait tout contact avec les médias. Nous accompagnerons au fil de cette nuit Christine Van Hache et Raymond Bellour, respectivement commissaire général et commissaire associé de l'exposition, et aussi le président de la Cinémathèque, Costa Gavras, qui fut l'un des plus proches amis de Marker. Avec eux, nous essaierons de mieux comprendre qui était Christian Bouche-Villeneuve, alias Chris Marker, cinéaste mais aussi écrivain, photographe et encore dessinateur, musicien et artiste multimédia. Artiste tout simplement, même s'il prétendait n'avoir jamais eu de préoccupations artistiques. Un artiste qui, à sa disparition en 2012, a laissé une œuvre foisonnante et protéiforme, et cependant très cohérente, dont nous essaierons, durant cette nuit, de dégager les grands thèmes et les différentes périodes. Alors, qui était Chris Marker, l'auteur de La Jetée, du Fond de l'air et rouge, de Sans soleil et de Level 5? Le cinéaste engagé, voyageur inlassable, témoin de son temps et de tous les temps. L'homme siècle, l'homme monde, l'homme chat, l'homme secret et mystérieux qui, avec beaucoup d'humour, joua sans cesse de ses fausses identités et de ses multiples biographies farceuses, mais qui nous laisse cependant des œuvres parmi les plus profondes, les plus sincères et les plus personnelles qui soient. Christine Van Hache, Raymond Bellour, bonsoir.
Bonsoir Alban.
Bonsoir Alban.
Christine Van Hache, vous êtes historienne de l'art. Raymond Bellour, vous êtes écrivain et critique. À celui qui ne connaîtrait rien de Chris Marker, de son œuvre comme du personnage, comment, même si c'est impossible, le présenteriez-vous en quelques mots, Christine Van Hache?
Chris Marker est un artiste, un auteur pluridisciplinaire qui a une culture universelle et globale avant la lettre, qui est malgré tout resté secret sur le plan personnel, mais qui a une œuvre qui est diffusée actuellement dans le monde entier.
Raymond Bellour.
Moi, comme j'ai un tout petit peu une réticence envers le mot d'artiste qui me paraît renvoyé à trop de gens, disons, je pense que, ce qui me paraît le plus important au fond et qui nous a un peu surpris mais qui s'est progressivement confirmé au cours du travail de l'exposition et du catalogue, c'est à quel point Marker était fondamentalement avant tout un écrivain.
Très bien, nous y reviendrons d'ailleurs tout à l'heure. Pour présenter dans une exposition un personnage aussi énigmatique, aussi secret que Chris Marker, une œuvre aussi singulière, comment s'y prend-on? Quelle ligne faut-il suivre?
Moi, j'avais déjà fait une exposition sur le travail de Chris Marker, mais sans les archives, à Londres, à la Whitechapel, il y a 5 ans. Et là, la demande de la Cinémathèque était plutôt de travailler à partir des nombreuses archives que la Cinémathèque a acquises pour son fonds. Et donc, ça nous a permis de reconsidérer le travail de Marker, le personnage, et surtout d'élargir notre point de vue sur cet auteur, cet artiste que nous pensions bien connaître. Et donc nous avons élargi, repoussé les limites, élargi les frontières, rajouté des éléments du début, des années 45 à 65, qui ne sont pas très connus. Et nous avons approfondi les éléments plus récents qui existent plus sur Internet.
Raymond Bellour.
Non, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Christine, on a été quand même complètement bouleversé par la masse des archives. Je veux dire, si on évoque le fait tout bête qu'il y a l'équivalent de 570 cartons de déménageurs, c'est effarant. L'exposition sera terminée, que l'ensemble des archives ne sera pas encore complètement inventorié. Donc on se trouve devant quelqu'un qui a tout gardé, qui dormait très peu, qui a beaucoup classé, beaucoup découpé. Il y a, je crois, quelque chose comme 470 dossiers documentaires classés, par ordre alphabétique, sur les sujets les plus... Il y a 5 dossiers sur Ségolène Royal, pour vous dire, donner un exemple qui peut paraître absurde. Avec l'idée que, sans doute, il gardait tout pour pouvoir utiliser un détail pour un commentaire à venir, vous voyez, je veux dire. Donc les archives nous ont complètement, vraiment sidérés, quoi, je veux dire. Et on a l'impression qu'on a fait ce qu'on a pu pour en mettre autant qu'on pouvait dans le catalogue et dans l'exposition, mais que ça n'y suffit pas d'une certaine façon.
Marqueur, donc artiste multidisciplinaire, certes, mais tout de même avant tout cinéaste, avec, si on met à part La Jetée, sa seule véritable fiction, des films signés Marqueur ou pas, composés de ses images ou de celles empruntées à d'autres, dont le commentaire, le texte, le sien est toujours la moelle épinière. Mais comment cerner le cinéma de Marqueur? On a souvent parlé, Bazin le premier, de film-essai, de Marqueur comme d'un essayiste. Il a d'ailleurs été aussi un portraitiste, Raymond Bellour.
Au sens où il a fait le portrait d'un certain nombre de gens à travers les films.
Comme Yves Montand, Le Mystère Kumiko, on peut parler de film portrait ou Mémoire pour Simone.
C'est vrai, non, c'est vrai que la notion de film portrait peut se combiner avec celle de film essai. Mais c'est quand même celle de film essai qui reste, à mon avis, fondamentale, même si c'est aujourd'hui un terme un petit peu galvaudé, si vous voulez, dans la critique et tout, mais c'est quand même ce que disait Bazin, pour le rappeler très très rapidement, le fait que d'habitude, les gens qui faisaient des documentaires avaient une bande image et ensuite collaient par-dessus un commentaire, il opposait à ça la façon dont Marqueur procédait, c'est-à-dire qu'il y avait simultanément une image avec son commentaire qui était montée avec une autre image avec son propre fragment de commentaire. Ce qui donne une intrication, si vous voulez, entre la bande image et la bande son, la bande texte, qui était absolument nouvelle à l'époque. Je veux dire, c'est un truc, ça a l'air de rien, ce déplacement, si vous voulez, mais c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et c'est ça qui donne son, en quelque sorte, qui fonde Marqueur comme écrivain avant tout, comme écrivain de cinéma, si vous voulez. Même s'il a renoncé très très vite, en un sens, à la littérature au sens habituel du terme, puisqu'il n'a jamais publié qu'un seul vrai roman, Le cœur net, ensuite un seul véritable essai, son livre sur Jean Giraudoux, et qu'après c'est une multiplicité de petits textes. Mais il est frappant de voir qu'il a continué à écrire des petites choses, indépendamment des films, hein, je veux dire même, mais des petites choses ici et là, tout au long de sa vie.
Hein. On peut dire que ses premiers exercices, ses premières ambitions étaient du côté de l'écrit et de la littérature.
Oui, et même assez spécifiquement de la poésie au départ. Hein. Il y a eu un tout petit recueil de poèmes, et quand on voit beaucoup de choses publiées dans la revue Esprit, il y a beaucoup de poèmes. Je pense à un poème qui s'appelle « Romancero de la montagne », par exemple. Il y a vraiment des poèmes, il y a des petites fictions, des petites nouvelles. Et il a écrit entre les années 50-60, près d'une centaine de textes dans la revue Esprit, et qui mélange tout. Critique de romans, intervention politique, analyse sociologique, évaluation d'une œuvre d'un cinéaste, d'un genre comme le dessin animé. Enfin, vous voyez, c'est dès le départ une sorte de culture encyclopédique dont il rend compte, lui, à sa façon extrêmement particulière, parce que dès le départ, il a une façon d'écrire qui n'appartient qu'à lui. C'est à la fois savant, ironique, parfois sérieux. Mais c'est très difficile de qualifier le ton de Marqueur. On a l'impression, moi j'avais une sorte de façon d'essayer de l'exprimer, surtout dans les débuts, on a l'impression qu'il écrivait plus vite qu'il ne pensait. Enfin, je veux dire qu'il y avait une sorte d'automatisme de l'écriture qui parfois pouvait le conduire à une relative obscurité de temps en temps. Ça s'est un peu éclairé avec le temps, mais je veux dire que c'était quelqu'un qui impulsivement écrivait et qui savait comment le livre sur Giraudoux est absolument extraordinaire de ce point de vue-là.
Et d'ailleurs, ses commentaires dans ses films étaient dits de manière assez rapide, plutôt assez soutenue.
Oui, le commentaire de Sans Soleil en particulier, qui est très beau et très, 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 très dense, très riche à travers la fiction des lettres envoyées à une femme qui les lit. Le commentaire de Sans Soleil, sur lequel Marqueur a beaucoup souffert. Je me rappelle qu'il m'avait dit une fois, c'est bien de filmer, mais quand on revient à la maison et qu'il faut écrire, quel cauchemar. Parce que le texte de Sans Soleil est vraiment un texte admirable. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que nous, on a voulu, dans la revue Trafic, le publier dès notre numéro 6 à l'époque, parce que c'était un texte qui était fait pour être lu. Et alors, la chose extrêmement troublante, je prends l'exemple de Sans Soleil, c'est que le texte se lit seul, sans ces images. Et quand on voit le film, on ne comprend pas comment on a pu lire le texte seul, tellement le rapport aux images est constamment évident. Relancé, oui. Évident, polyvalent et tout. Et ça, c'est très très unique, ça, comme situation, si vous voulez, comme qualité de l'œuvre, enfin.
Et d'ailleurs, dès 61, il a publié les commentaires de ses premiers films, de ses premiers courts-métrages.
Oui, le premier volume, effectivement, en 61, regroupe, il oublie volontairement Olympia 52, qui est un film pour lequel il n'avait pas assez d'estime, disons, son film sur les Jeux Olympiques, et son premier film, son premier vrai film. Et il commence avec Les Statues Meurtres aussi, et Dimanche à Pékin, L'aide de Sibérie, Koubassi, et un film fantôme qui est L'Amérique rêve, qui est le film qu'il avait écrit pour François Reichenbach. Mais qui n'a pas fonctionné comme tel, que François Reichenbach a voulu réécrire à sa façon parce qu'il trouvait le texte de Marker trop compliqué et trop ambivalent par rapport aux États-Unis. Et donc Marker a retiré le texte écrit pour Reichenbach et l'a publié en tant que tel dans le livre comme une sorte de fiction, de film non existant, mais dont le texte, justement, atteste la réalité.
Et puis Christine Van Hache, il y a également la collection Petite Planète aux éditions du Seuil, dont Chris Marker a été le créateur et le directeur entre 54 et 58.
Voilà, on a vraiment découvert en travaillant dans les archives que Marker était un très grand voyageur. Que dès les années 45, il allait non seulement en Allemagne pour donner des cours de cinéma, mais il allait aussi souvent aux États-Unis. Ensuite, il a été en Chine, à Cuba, en Sibérie, en Israël, au Japon. Enfin bon, il n'a pas arrêté de voyager. C'est peut-être son activité principale avec l'écriture et la constitution de ses archives, c'était le voyage. Donc il paraissait normal quand il a rencontré Paul Flamand, qui était directeur des éditions au Seuil à l'époque, qu'on lui confie la direction de guide de voyage. Et donc c'est lui qui a créé cette collection Petite Planète, sur laquelle il a travaillé pendant une petite dizaine d'années, où il n'écrivait pas lui-même, là, il passait des commandes à des écrivains qui étaient ses amis ou des correspondants qu'il avait rencontrés déjà pendant la Résistance ou des écrivains de l'époque d'esprit. Et donc, lui, il supervisait et il contrôlait aussi la mise en page. C'est-à-dire qu'on retrouve des particularités dans la mise en page de ses ouvrages, des particularités qui sont très novatrices, puisqu'il met en relation des textes, des titres qui sont souvent très drôles, des photographies, dont un certain nombre de photographies prises par lui, mais aussi des petits bouts de bande dessinée. Et par rapport au guide antérieur, c'est très très novateur dans la mise en page, dans la constitution de ces guides, qui étaient plutôt des guides d'ailleurs assez intellectuels. Moi j'avais voyagé avec le guide sur la Grèce, il y avait très peu de matière pratique comme on trouve dans les guides aujourd'hui, mais c'était plutôt des très beaux textes sur la culture du pays, sur l'histoire, et assez complet. Et donc c'est une collection mythique maintenant, qui reste très importante. Et on trouve une curiosité dans le Petite Planète sur la Chine, c'est qu'on trouve son premier et deuxième court-métrage. Il a intitulé ainsi court-métrage numéro 1, court-métrage numéro 2, et il a mis ensemble un certain nombre de photographies que l'on consulte en tournant les pages, voilà, comme un flipbook, en fait. Et donc ça, c'est des curiosités de ce Petite Planète sur la Chine.
Oui, qui s'appelle Claire de Chine. Alors moi, je peux ajouter une chose sur l'édition, c'est qu'il me semble qu'à l'intérieur de la série Microcosme, si vous voulez, que les éditions du Seuil avaient mis en place, et qui vont être, qui vont en partie révolutionner l'édition française à cause du rapport entre texte et image. Petite Planète marque vraiment quelque chose de très fort. Je veux dire, c'est un travail d'édition. On vit encore aujourd'hui dans la conception de l'illustration des livres sur ce que Marker a contribué à inventer à travers Petite Planète. C'était un, et je veux dire, il est intéressant tout le temps, au sens où l'a souligné Christine, de penser le rapport entre les Petites Planètes et tous ces films essais, parce que ça circule continuellement comme mode de travail, je veux dire.
Chris Marker, homme-monde, Raymond Bellour, c'est sans doute une bonne formule. Dès l'origine, dans tous ces fuseaux horaires, c'est bien le monde qui est l'espace naturel, le biotope de Marker.
Ben oui, au sens où Christine le soulignait, Marker a été un grand, grand voyageur. Et au fond, ce qui l'intéressait beaucoup, c'était le rapport entre les temps et les espaces, dès le départ. Hein, la citation qui ouvre sans soleil, qui est extraite de la préface de Racine à sa pièce Bajazé sur les rapports entre les temps et les espaces. Il a toujours été fasciné par le déplacement des fuseaux horaires, le fait qu'il était à telle heure à tel endroit, telle autre heure à tel autre endroit, et que c'était comme si lui essayait, à travers aussi bien ses voyages que l'écriture de ses voyages, de constamment changer de fuseau horaire et de complètement être dans la simultanéité des temps, si vous voulez. Et c'est ça que Sans Soleil illustrera de façon, en tant que film, illustrera de façon tout à fait fondamentale. Je veux dire, l'idée qu'il y a un seul temps et un seul espace, mais qui n'arrête pas à la fois de se varier et de se contredire, si vous voulez. Et l'idéal de Marker, on a l'impression qu'une sorte d'œil souverain qui aurait voulu maîtriser à la fois tous les temps et tous les espaces.
Et au fil des films et du temps, en quoi l'interface entre Marker et le monde opère-t-elle différemment dans son cinéma, Raymond Bellour? Ce rapport au monde ne nous est pas toujours donné de la même manière dans les films, au fil des films.
Non, parce que les matières des films en elles-mêmes sont différentes. Je veux dire, quand il fait Dimanche à Pékin et qu'il fait L'aide de Sibérie, c'est des films qui ont été payés par les amitiés franco-chinoises ou les amitiés franco-russes. Il se livre à un décryptage sociopolitique plus ou moins ironique de la réalité à laquelle il a affaire. On a pu l'accuser plus tard, et lui-même est revenu sur ses films qu'il a plus voulu programmer à l'intérieur de ses rétrospectives de son vivant, parce qu'il a pu sentir qu'il avait été peut-être un peu trop proche des thèses du Parti communiste, enfin, etc., etc., ou pour Koubassi. Mais ce qui me frappe, c'est que quand il fait Description d'un combat, son film sur Israël, on sent que à cause du changement du sujet, il y a presque un changement de ton. Je veux dire, au sens où la matière d'Israël est forcément problématique, forcément difficile, marquée par ce qui deviendra à travers la Shoah et tout ça, et qui a une véritable interrogation beaucoup plus douloureuse que dans ses autres films, par exemple. Vous voyez, donc, de film en film, c'est vrai qu'il y a une variable. Cela dit, quand on prend Commentaire, le premier volume de Commentaire, et qu'on essaie de le lire d'un coup, ce qui frappe quand même constamment, c'est l'homogénéité du ton. C'est l'art de la plaisanterie, de l'humour, du déplacement. Il y a toujours, si vous voulez, une sorte d'équilibre extrêmement difficile à définir entre sérieux et ironie. Constamment, on a l'impression que l'ironie lui sert à pouvoir insérer les éléments de sérieux, de gravité, d'analyse, etc., les éléments de fond, disons, mais toujours sous une forme légère. Et ça me paraît, c'est la chose, c'est en ça que je dis qu'il est fondamentalement un écrivain, si vous voulez. Il a gardé ça, et il écrit de la même façon le livre sur Giraudoux et les commentaires.
J'ai une chose à rajouter sur cette question de voyage. Dans le CD-ROM Immemory, donc qui est son autobiographie en quelque sorte, fictionnelle certes, mais où il y a des éléments de réalité qu'il a mélangés avec des éléments de fiction, il y a une section voyage qui est une des sections super importantes. Et il cite une référence de Nicolas Bouvier, qu'il a tiré de L'usage du monde, où il dit que, en quelque sorte, c'est le voyage sert à combler une sorte de vide abyssal. Et donc, on a peut-être l'impression que Marker aussi cherchait à combler quelque chose par ce mouvement permanent et cette curiosité aussi d'aller chercher dans différentes cultures peut-être ce qu'il ne trouvait pas ici ou qu'il avait besoin de mettre en relation sa culture personnelle avec d'autres cultures. Il parlait d'ailleurs plusieurs langues. Il parlait le russe, l'allemand, l'anglais très tôt. Très vite après la guerre, il s'est mis à parler anglais puisqu'il est devenu traducteur pour l'armée américaine. Donc il était prêt, il avait les bagages pour voyager dans le monde entier.
Le choix de Christian Bouche-Villeneuve de devenir Chris Marker, pseudonyme très anglo-saxon, et ce dès la fin des années 40, est aussi une manière de devenir international, d'appartenir au monde des aéroports, des voyages. Des pseudonymes, Marker en a utilisé beaucoup d'autres. Ce jeu avec les identités, comment faut-il le prendre? Comme un simple jeu ou quelque chose de plus profond, une manière de prendre ses distances, mais avec quoi? Avec sa propre histoire, ses origines? Son pays, Raymond Bellour.
De toute façon, il y a une répudiation de ses origines bourgeoises qui est claire. Je veux dire, il était d'une famille dont le père était pétainiste, si vous voulez, alors que Marker finira, lui, par s'engager dans la résistance. Il y a là un clivage avec la famille très fort, même s'il avait gardé une proximité avec sa mère, dont il a hérité sa passion pour la musique. Mais il est clair que la multiplication des pseudonymes qu'il a utilisés pour les traductions, pour les commentaires, surtout les commentaires qu'il a écrits pour d'autres cinéastes. Je pense à Jacopo Berenizzi, qui est le pseudonyme qu'il a utilisé pour Les Hommes de la Baleine de Mario Ruspoli. Cette multiplication des identités, si vous voulez, c'est ne jamais vouloir être fixé à une seule image, qui aurait été soi-disant lui-même.
Ne pas être enfermé.
Ne pas être enfermé, on a l'impression que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a très tôt pressenti ce qu'allait être ce que le monde est devenu, c'est-à-dire un monde en perpétuel déplacement. Je veux dire, l'internet et l'ordinateur, c'était fait pour lui, si vous voulez. On a encore récemment découvert un petit texte dans les archives de la Cinémathèque qui est un éloge éperdu de l'informatique en tant que mode de pensée. On a l'impression que ce déplacement-là, si vous voulez, c'est quelque chose qui, fondamentalement, les pseudonymes et la multiplicité des accès que l'internet ouvre, c'est la même chose d'une certaine façon. C'est ne pas être fixé à une identité. Il était par ailleurs sur ce plan-là très très proche de Henri Michaud, qui avait ce même souci de ne pas être fixé à une identité.
Selon les activités, il prenait tel ou tel pseudo quand il était musicien, parce qu'il a fait pas mal de musique lui-même. Il s'appelait Michel Krasna. Quand il était traducteur, c'était Fritz Marcassin. Avant la guerre, il avait comme pseudo Marc Dornier. Et pendant la guerre, probablement pendant la résistance, il devait avoir des pseudos, mais qu'on n'a pas nécessairement retrouvés, qui sont peut-être plus difficiles à rechercher. Et puis le nom de Chris Marker lui-même, on pense qu'il date de 45, justement quand il était traducteur pour l'armée américaine. Et il dit, j'ai choisi ce pseudo prononçable dans la plupart des langues parce que j'avais l'intention de voyager.
Mais ce goût des pseudonymes doit-il aussi quelque chose à la littérature du début du XXe siècle, à des lectures de jeunesse, Fantomas ou plutôt Arsène Lupin?
Oui, on peut le dire. En tout cas, il est frappant de voir que dans les disques durs de l'ordinateur de Chris Marker, vous avez la totalité des œuvres de Maurice Leblanc et de Souvestre et Alain, la complète.
Le mythe Marker donc doit beaucoup à ce jeu avec les identités, à une manière de cultiver son mystère, de cloisonner sa vie, et plus encore sans doute au fait de refuser de paraître, de ne pas accorder d'entretien, ou très rarement, de refuser les photos, les médias, comme Debord, mais d'une manière moins hautaine. J'ai trouvé quelque part l'expression « orgueilleuse modestie », je ne sais plus à qui on la doit. Orgueilleux et modeste à la fois, Marker ?
Oui, je crois que c'est une bonne façon de le dire. Et là encore, d'ailleurs, pour moi, la proximité avec Henri Michaud est extrêmement forte. Je veux dire, je me rappelle encore Michaud me disant qu'il voulait pas être reconnu à la poste. Et c'est tout à fait le problème de Marker. Il voulait absolument rester quelqu'un de relativement anonyme, malgré le fait que, signant de plus en plus de films et d'œuvres et tout, il était forcément un homme public, si vous voulez, par définition. Mais il y avait une volonté de retrait, et il y avait surtout une volonté fondamentale de ne pas perdre de temps.
Et de préserver sa liberté et son autonomie, sans doute.
Oui, mais je pense que ne pas perdre de temps est l'élément absolument essentiel. Il est frappant quand on lit les lettres, les réponses à des tas de gens qui lui demandent ceci ou cela sur la jetée ou sur Dieu sait quoi. Ce qu'il répond tout le temps, c'est « je n'ai pas le temps ». Ce qui est quand même frappant, c'est qu'en revanche, ils répondent.
Oui, il me disait « offrez-moi du temps si vous voulez que je fasse autre chose ». Mais c'est depuis les années 60, depuis le moment de la jetée qui s'est retirée et qui n'a plus voulu qu'on le photographie ou apparaître en public. Mais il disait que les œuvres existaient en soi, les films existent, ils circulent, on n'a pas besoin de le voir lui, les œuvres suffisent.
Si le mythe Marker doit beaucoup donc à la manière dont il cultivait son mystère, ne le doit-il pas avant tout à un film, son seul véritable film de fiction, La Jetée? Quel autre film court aura réussi à occuper une telle place dans l'histoire du cinéma?
Non, c'est un vrai problème. Et j'ai été très frappé de voir que par deux fois, il a donc tourné La Jetée dans les interstices que lui laissait le tournage de ce film beaucoup plus ample et compliqué qu'était Le Joli Mai, qui était ce documentaire sur l'état des choses dans Paris au début des années 60. Et il a tourné La Jetée les week-ends. Et par deux fois, il a déclaré qu'il savait pas ce qu'il était en train de faire. Comme si La Jetée était sortie, si vous voulez, de nulle part. Ce qui n'est pas vraiment vrai, par ailleurs. Parce que il existe aux archives d'Argos Film, le producteur, un scénario, un contrat.
Un découpage,
des conditions de travail et tout. Mais par deux fois, il a au moins éprouvé la nécessité de dire « Je ne savais pas ce que je faisais avec ce film-là. » C'est sorti d'une façon... comme si c'était une chose incohérente, si vous voulez, pour lui. Et je crois qu'il a été... c'est au fond, s'il n'a fait qu'un film de fiction, c'est, je pense, et que ce film est La Jetée, qu'il a touché dans ce film, si vous voulez, l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler sa problématique du temps et de la mémoire, et qu'à ça, il n'y avait rien à ajouter, d'une certaine façon. Et effectivement, ça c'est un point, puisque le problème c'est la coïncidence entre le début et la fin du film, la mort du héros antérieur à son enfance et tout. Mais la deuxième chose, c'est que La Jetée est le premier film de fiction tourné entièrement, à l'exception d'un instant, en image fixe. Et ça, si vous voulez, c'est une chose qui est fondamentale pour l'histoire du cinéma et le développement du cinéma et la façon dont... à partir des années 50, le cinéma a été travaillé par l'image fixe, l'arrêt sur image, etc., etc., et que La Jetée, là, a marqué, si vous voulez, c'est un vrai repère. Enfin, c'est le premier film qui fait surgir le mouvement à partir de l'image fixe. Et ça, mis en rapport avec la déchronologie totale que le film produit chez le spectateur, c'est effectivement une œuvre matrice, si vous voulez. Et qui, de là, a inspiré les remakes qu'on a pu en faire et l'influence que ça a exercé sur énormément de jeunes cinéastes qui ont voulu, à leur façon, si vous voulez, refaire La Jetée, même si c'était une chose impossible.
Christine Van Hache. Il s'était déjà essayé au ciné-roman, puisque c'était quand même l'époque des ciné-romans. L'exposition du Mucem en parle pas mal et montre un peu tous ses essais. Et il s'était essayé dans un film qu'on a redécouvert récemment, qui s'appelle La Clé des songes, qui date de 1950, qu'il a tourné dans la chambre d'Alain Resnais. Et on voit déjà un peu les essais qu'il essaye de mettre en place. Il n'est pas tout seul, évidemment, comme réalisateur. Mais déjà, parallèlement à ce film, existe aussi un papier avec des photos fixes qui sont mises en relation les unes les autres. Donc il était peut-être déjà habité par cette idée de faire un film de photographie. Moi, il m'a dit concernant le texte qu'il l'avait écrit en écriture automatique. Que c'est un texte un peu comme les surréalistes, quoi, qu'il n'était pas du tout responsable du texte, que ça s'était passé sans lui.
Christine Van Hache et Raymond Bellour, merci. Nous allons écouter les archives qui composent la première partie de cette nuit Chris Marker. Dans un instant, Une vie, une œuvre, Chris Marker de Virginie Bloch-Lenné en 2012. Puis L'art nègre selon Alain René et Chris Marker dans Les statues meurent aussi par Séverine Yattard et Christine Robert pour La nouvelle fabrique de l'histoire en 2006. Et Le fond de l'air est rouge de Chris Marker, un numéro du cinéma des cinéastes de Claude Jean-Philippe en 1977. Nous retrouverons Costa Gavras dans un peu plus de 2h30 pour la suite du programme de la nuit Chris Marker et vous, Christine Van Hache et Raymond Bellour, plus tard dans la nuit. À tout à l'heure.